Mon surnom, c'est Infano. Je pense qu'on a ralenti à notre manière un peu le chantier, l'avancement des travaux. Ça a alerté la population sur la manière dont ces décisions sont prises, etc. Continuer à s'informer au niveau local, qui sait, il y a peut-être une LGV qui va passer pas très loin de chez vous, un projet de réacteur EPR qui va se monter dans votre jardin, une mine de gaz de schiste qui va se faire sur les terres du paysan voisin. Et puis voilà, croire que continuer à penser qu'il y a des choses qui sont faisables, quoi, arrêter avec le pessimisme actuel où voilà, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. Mais bien sûr qu'on peut faire des choses face à ça, que ce soit en proposant un autre mode de vie, en essayant de vivre les idées qu'on a dans la tête, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Bref, c'est faisable. C'est faisable, et même les gens qui sont loin, et il y en a qui sont venus très loin, venir nous voir. Voilà, ça peut être faisable, quoi. Pendant la période de vacances, n'hésitez pas à venir passer quelques jours de vacances ici, à venir filer des coups de main pour construire des choses, ou même mener un projet qui vous pousse. Il y a des gens qui sont venus comme ça pendant les vacances, des fois avec leurs enfants, qui ont passé là une semaine de vacances, au lieu d'aller, je sais pas quoi, dépenser des ronds, à louer une villa sur la côte, ou je sais pas. Venir là et puis apprendre un paquet de choses, rencontrer des gens. On peut toujours se tenir au courant de l'actualité ici sur le terrain et même ailleurs sur le site tant qu'il y aura des bouilles.wordpress.com, donc tant qu'il y aura des bouilles avec un S bien sûr à la fin, tout attaché. Il suffit de taper ZAD testé sur Google, j'imagine qu'on tombe rapidement là-dessus. Il y a le site du collectif testé aussi, qui parle plus un peu de l'aspect juridique, écologique, etc. Toutes les alternatives qu'ils ont proposées. Ça, c'est plus le collectif légaliste. Voilà, il y a le numéro de l'InfoZAD qui est sur le site de tant qu'il y aura des bouilles, où ils peuvent entrer en contact avec nous, savoir comment ça se passe actuellement, comment nous rejoindre, quels besoins matériels on aurait, et voilà, et puis même lire certains journaux indépendants ou certains médias alternatifs, les lire ou les regarder, et qui peuvent donner une idée de ce qui se passe ici. Je pense en particulier à l'excellent journal CQFD, qui a toujours relayé un peu ce qui se passait en France et dans le monde à propos des luttes environnementales, sociales. Ils sont souvent fait le relais des ZAD, de certaines mouvances squats également, des centres sociaux autogérés qui auraient pu se monter à Toulouse, à Lille ou ailleurs. Tout l'équivalent d'une sorte d'Indymedia Toulouse, c'est iata.info, c'est information anti-autoritaire sur Toulouse et aux alentours, donc ça s'écrit i2ata.info, si je ne me trompe pas, et qui se font pas mal le relais de ce qui se passe un peu dans le secteur. Voilà, c'est autant d'outils qui permettent de rester un peu connecté, entre guillemets. Moi, je viens de la ZAD du Testé. Actuellement, je suis là, mais bon, je suis sans domicile fixe. Je suis originaire du sud-ouest, quoi, mais j'ai habité à droite à gauche. J'ai habité dans la Drôme, j'ai habité un peu dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, à droite à gauche. Je vis en camion, du coup, je suis assez mobile. Je suis nomade, et puis je vais là où le vent me porte, où le travail me porte, des fois, vu que je suis saisonnier aussi. Je fais des saisons agricoles ou saisons dans l'hôtellerie. Actuellement, ça fait longtemps que j'ai pas beaucoup travaillé, mais parce que j'ai trouvé un autre moyen de travailler un peu ici, une manière de travailler qui est pas lucrative, disons, mais où on peut s'enrichir de plein de manières différentes, que ce soit les amitiés qui se consolident, que ce soit le savoir qu'on partage et qu'on peut apprendre ici. Voilà, il y a vraiment différentes manières de s'enrichir ici, autre que par la valeur monétaire. C'est assez intéressant. Et pour moi, c'est aussi une manière de travailler, entre guillemets, quoi, parce qu'on va faire un peu de travail autour de des lois, la legal team, tout ça, un travail un peu média, où on va faire un peu du montage vidéo, où on va s'occuper de la radio, un travail un peu, contact humain, où on accueillait les médias au moment où il y a eu un afflux massif de médias et de presse dans le secteur, après le meurtre de Rémi Fraisse. Pour l'instant, je reste ici tant que ça me plaît, tant que tout se passe bien, tant qu'il y a des luttes à mener et des choses à faire, des besoins humains. Et on en a beaucoup ici. On est toujours. Si on était un peu plus nombreux, on pourrait aussi s'organiser de manière différente et que ce soit encore mieux organisé, disons. Ouais.
Mais dis-moi, toi, c'est un choix d'être sans domicile fixe ?
Ouais, ça pourrait être un choix, ouais. Comment dire, moi j'ai un peu du mal à rester posé au même endroit pendant longtemps. J'ai fait des études il y a 3-4 ans de maraîchage en maraîchage bio. Et du coup, l'idée c'était avec mon ex-compagne de monter un projet agricole et d'être installé. Et puis tous les deux, je pense, on le sentait pas trop, le fait de s'installer comme ça, parce qu'avant, donc j'ai toujours, depuis 10 ans, je suis saisonnier agricole ou même d'autres saisons, mais du coup on était super mobile et là on se disait, ah, tout à coup on va se poser à un endroit et plus y bouger de toute notre vie, quoi. Si on commence à planter des arbres, ce serait bien de les voir grandir. Et du coup, de fait, bon, on s'est séparés, tout ça, on a pris un peu chacun nos chemins. Puis moi, après cette séparation, j'ai acheté un camion et puis j'ai bougé à droite à gauche pour continuer à visiter des lieux qui me plaisaient, être sur des lieux de lutte. C'est par choix, mais c'est aussi pendant du coup toute cette période où je faisais les études en maraîchage bio, c'était la première fois que j'avais un appartement et où j'étais vraiment locataire. Et du coup l'idée de payer un loyer pour être logé alors qu'il y a tellement de logements vides en France qui sont inutilisés, toutes ces idées-là, je me disais, j'ai plus envie en tout cas d'avoir un loyer, de payer un loyer, d'être locataire, d'être posé dans une maison. Il y a plein d'autres manières de trouver un toit aussi, de trouver un lieu où habiter, et d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Il y a plein d'autres manières de le faire sans forcément enrichir les propriétaires qui sont déjà assez riches comme ça, je suppose. Du coup, ouais, je dirais que c'est par choix. C'est par choix, mais c'est aussi un peu la société comme elle est faite qui m'a pas donné envie forcément de me poser. Bon, y avait ce projet agricole là c'était vraiment, ça aurait été le seul compromis que j'aurais pu donner à l'installation définitive sur un lieu, quoi. C'est de pouvoir travailler des terres, m'occuper des bêtes. Bon, on avait un projet de poule pondeuse, voilà. Donc, mais une fois que t'as des poules, tu bouges plus trop de ton lieu. Si t'as des arbres fruitiers, des légumes à t'occuper, tout ça, bon, tu bouges plus trop. C'était un compromis que j'étais prêt à faire à partir du moment où tu restes fixé à un autre endroit, à un endroit précis, mais où tu restes quand même ouvert sur la marche du monde autour. J'ai travaillé chez pas mal de maraîchers qui des fois sont un peu coupés du monde du fait qu'ils bossent comme des dingues et ils savent pas trop ce qui se passe, même des fois à 40 km de chez eux. Moi c'est vraiment une condition. Depuis 10 ans je me suis toujours intéressé à l'actualité, des luttes aussi en particulier. Et voilà, d'être. Par exemple, des fois quand je faisais des saisons pendant 5 mois, j'étais au même endroit et puis j'entendais dire qu'il y avait quelque chose d'énorme qui se passait en Espagne, à Barcelone, ou, je sais pas, à Turin, à Nantes. Et t'es fixé à cet endroit-là, t'as ton travail qui t'empêche de bouger. Alors que t'as qu'une seule envie, c'est de voir tous ces lieux, de voir un peu les dynamiques qui ont lieu et puis de rencontrer les gens. Essayer de faire des choses avec eux. Il me semblait qu'on avait à peu près le même état d'esprit et que, en faisant des saisons, je rencontrais pas trop de personnes qui avaient le même état d'esprit que moi et je me disais, là, il y a moyen de rencontrer des gens qui pensent comme moi et d'avancer là-dessus, quoi, sur des idées communes. Donc, des fois, le travail, de rester au même endroit, d'être fixé au même endroit, ça t'ouvre pas trop ces portes-là, quoi. Même au contraire, ça te les ferme. Donc, voilà, je suis bien content de ma situation actuelle, hein, ça c'est net.
Tu es autodidacte ?
Ouais. À plusieurs niveaux, j'ai été étudiant un peu, hein, j'ai fait des études dans l'audiovisuel, comme je disais, il y a 2-3-4 ans que j'ai fait des études en maraîchage bio, mais même avant de faire ces études en maraîchage bio, j'avais fait pas mal de woofing, où on a pu apprendre chez des maraîchers... Tout ce travail de la terre là, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai lu énormément, du coup c'est vraiment, il y a plein de choses que j'ai apprises grâce aux livres, grâce aux journaux, à certaines revues, aux émissions radio, toujours la radio qui est branchée sur France Inter. Quand j'étais petit, je me levais avec le comment il s'appelait, le conteur d'histoire ou un gars, je me rappelle même plus son nom, c'était un grand personnage radiophonique. Et puis dans l'adolescence, après je me suis rendu compte qu'il y avait là-bas si je lui suis aussi, où j'ai appris pas mal de choses en écoutant cette émission de radio. Et puis après, ma conscience politique, ouais, je me la suis vraiment faite. J'ai rarement été entouré de gens qui avaient une certaine conscience politique dans laquelle je me retrouvais et qui pouvaient m'apprendre des choses là-dessus. Donc j'ai vraiment appris, comme je disais, grâce aux livres et puis... J'ai eu la chance aussi des fois dans ma vie de pouvoir rester posé 2-3 mois pendant l'hiver à hiberner au milieu de mes bouquins et de pouvoir m'instruire de cette manière-là en faisant pas grand-chose d'autre à part lire, manger, dormir, fumer et voilà, du coup le nez dans les livres, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre la permaculture, d'aller chez des maraîchers. Et pour moi, ça avait plus de sens déjà. J'ai toujours recherché l'autonomie. Et le fait de se lever le matin, travailler pour faire pousser des légumes qui après me serviront à manger, pour moi, c'était quelque chose d'essentiel, quoi. Déjà, on se rapprochait de l'autonomie. Et du coup, c'est vraiment cette question agricole-là qui m'a intéressé. Notre-Dame-des-Landes, en 2009 ou 2010, quand j'ai commencé à en entendre parler, pour moi, ça a été une évidence qu'il fallait lutter pour garder ces terres agricoles-là. On dit souvent que tous les 7 ans, il y a l'équivalent d'un département français de terres agricoles qui disparaît sous le béton. Du coup, c'est un constat ultra alarmant et voilà... où je me suis dit faut qu'on fasse quelque chose pour préserver ces terres agricoles-là. L'idée de l'occupation, j'ai trouvé ça super intéressant aussi parce que du coup on construit des choses, quoi. C'est pas une occupation comme ça à la légère, on va commencer à construire nos propres habitats, on va commencer à mettre en place un début de société où on s'organise collectivement, prise de décision horizontale, faut qu'on se débrouille à être le plus possible autonome. Que ce soit de manière individuelle ou même de manière collective, trouver de la nourriture, toutes ces choses-là, j'ai trouvé ça super intéressant. À l'époque où j'ai commencé le woofing, c'est ça qui m'intéressait, quoi, apprendre des choses pour être le plus possible autonome et pour pouvoir avancer, et apprendre des choses essentielles de la vie, j'ai envie de dire, quoi. Donc du coup, il y a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a eu d'autres luttes. Et quand j'ai entendu pour la première fois parler de la ZAD du Testé il y a un an, je me suis dit que c'était un peu plus près de l'endroit où j'étais né, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment hallucinantes au niveau de comment ce projet s'est lancé et comment le public a été consulté à propos de ça. Et pour moi, c'est devenu une évidence. Et je me suis dit, oh, je vais recroiser certainement des copains que j'avais croisés sur d'autres flûtes. Du coup, je suis venu là. Et puis, petit à petit, il y a des relations qui se créent, des relations amicales, même des fois amoureuses, des choses qui se créent, qui donnent envie de rester plus longtemps. On apprend tellement de choses, comme je disais aussi, que ça donne envie de continuer la lutte et puis de s'intéresser à ça. Ce qui est dingue aussi, c'est la répression qu'on a subie. Et cette répression-là fait que t'as envie de rester, que t'as pas envie de lâcher tes copains, que t'as envie de continuer à vivre le quotidien qu'on a ici. Depuis quelques temps que je suis ici, à chaque fois que j'ai quitté la zone de 3 jours, je continue à me renseigner sur Internet, passer des coups de fil aux copains. Je peux pas, j'ai vraiment du mal à quitter ce lieu. Le monde continue à marcher autour, mais en fait, une information même minime ici qui semblerait complètement inintéressante pour les gens qui sont pas ici, pour nous, ça prend des proportions énormes, quoi, et c'est quelque chose dont j'ai pas envie de me séparer. Par exemple, hier, il y a eu, suite à la manif de Toulouse de samedi, il y a eu 9 comparutions immédiates à Toulouse, et il y a des copains qui ont pris du ferme, donc j'ai pas le rendu précis des procès, mais il y a pas mal de copains qui ont pris du ferme. Donc ce matin, il y a un copain qui est venu nous voir et qui nous a fait un peu le rendu de tous ces jugements. Et on apprend que telle personne a pris 4 mois de prison ferme. Nous, ça nous semble impensable, ça augmente notre colère, etc. J'imagine que quelqu'un qui habite... Même ne serait-ce qu'à 5 km d'ici, et puis qui mène sa vie dite normale, travail, famille, tout ça, puis le crédit de la bagnole et compagnie, je pense qu'il en a, lui, il en a rien à cirer, quoi, qu'un copain ait pris 4 mois ferme. Seulement, d'avoir vécu cette manif, d'avoir vu comment ça s'est passé, et voir qu'il y a un copain qui a pris cette peine ultra lourde, alors qu'au final, on était juste là à crier notre colère... face à toute cette répression policière, pour nous, c'est une information qui prend une ampleur assez énorme, quoi. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être aussi tel copain, il s'est cassé la jambe en tombant d'un arbre qu'il occupait, il y a quelqu'un qui nous a ramené un ordinateur sur lequel on va pouvoir faire du montage vidéo. Pour nous, ça, c'est une information qui est vraiment ultra importante, mais du coup, c'est vraiment une micro-société dont on a du mal à partir. Quoi. Alors, il y a eu cette histoire aussi. Donc moi, j'étais venu à la réoccupation au 15 août, et où là, la forêt était encore présente. J'ai pu voir cette magnifique forêt. Là, j'ai compris que c'était vraiment une forêt qu'on défendait à la base, une forêt qui n'existe plus. Et j'ai dû m'absenter et les 15 premiers jours du mois de septembre, et je voyais toutes ces images d'arbres qui tombaient, j'en pleurais, quoi, j'en rêvais la nuit. Et je voyais tous ces arbres qui tombaient, malgré que la forêt ait été décimée, je me suis dit faut vraiment qu'on lâche rien, faut qu'on continue d'interpeller les médias sur la manière dont ça s'est fait, le passage en force de ce déboisement là.
C'était légal, ce déboisement?
Eh ben là, je pourrais pas répondre. On a eu différents sons de cloche. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait eu 3 procédures qui avaient été mises en place, 3 procédures juridiques. Avec aussi des propositions alternatives au barrage qui avaient été posées. Et malgré tout ça, l'État et le Conseil général, Thierry Carcenac, ils ont fait passer ce déboisement en force. Je pense qu'ils n'ont pas voulu reproduire l'erreur qu'ils avaient fait à Notre-Dame-des-Landes en prenant leur temps, surtout les travaux préparatoires de déboisement et de ravalement du paysage. Donc légal, je sais pas, en mon sens, c'était totalement illégal parce qu'on n'a pas consulté les gens là-dessus. On n'a pas. Thierry Carcenac n'a jamais voulu un débat contradictoire, il n'a jamais voulu qu'il y ait un débat et une discussion, un dialogue en tout cas qui s'instaure entre les collectifs anti-barrage et leur position à eux. Donc en mon sens, ouais, c'est totalement illégal quoi, de faire ça sans concertation au préalable. Etc. Du coup, maintenant, on assiste à une zone qui a été totalement déforestée, où il reste encore sur certains endroits des copeaux de bois, d'autres endroits où le paysage a été totalement ravalé, où c'est que du sol. Ils ont fait le décapage, là, c'était enlevé les premiers mètres de couches d'humus et de terre fertile pour vraiment mettre la terre à nu et que la végétation puisse pas repousser. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu-là, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de ces terres? Donc c'est des questions qui commencent à apparaître et les réponses forcément suivent. Et moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue agricole, vu que c'est ce qui me motive également, ce serait voir si on pourrait recréer un exemple ici d'alternative agricole. En tout cas, une proposition agricole qui ne nécessite pas d'irrigation, vu qu'ici c'est aussi un barrage qui permet l'agriculture intensive du maïs par le biais d'irrigation. Et je pense que c'est possible, quoi. La petite paysannerie de nos jours en France, on l'affaiblit énormément avec des lois, avec tout un pack de choses qui leur empêchent de faire leur métier de manière libre. C'est un corps de métier qui avait encore énormément de liberté il y a encore quelques années. Petit à petit, on leur restreint toutes ces libertés-là. Et moi, c'est des valeurs que je défends, quoi. La petite paysannerie, l'agriculture biologique respectueuse de l'environnement. Effectivement, on parle souvent de l'agriculture bio. L'agriculture bio, c'est avant tout un label. Donc il y a le label Écocert, il y a aussi le label Nature et Progrès qui est peut-être encore un poil plus respectueux de l'environnement. Mais en tout cas, tout ça participe. En tout cas, moi, ce que je souhaiterais voir, c'est vraiment un retour à la petite paysannerie. Ça pourrait être une alternative au système actuel capitaliste, quoi. Des petites zones, des petits tampons verts comme ça un peu partout de paysans autonomes qui pourraient aussi nourrir les locaux, les gens autour de leurs exploitations agricoles, quoi, autour de leurs fermes. Notre quotidien est assez évolutif, c'est-à-dire que dans la première quinzaine de septembre, bon, j'étais pas là, mais j'ai eu des récits de copains et puis j'ai vu pas mal de vidéos. Là, on était surtout témoins d'un saccage écologique impensable, des arbres qui tombaient par centaines tous les jours. Et des beaux arbres, là, on était vraiment témoins de ça. Forcément, on était témoins également de la répression policière et des violences policières qui sont exercées contre nous. Et ça a duré un bon petit bout de temps, même une fois que la forêt a été décimée. On a encore assisté à des brutalités impensables. On a essayé d'alerter les médias pendant plusieurs semaines et mois là-dessus. Donc on a fait des vidéos qui ont été diffusées sur Internet où on pouvait voir une vieille dame se faire traîner au sol par des gendarmes mobiles. On a pu voir une vidéo d'une copine qui, pour se faire dégager de la caravane où elle était, on a balancé donc un gendarme mobile a balancé une grenade assourdissante dans la caravane. C'est des choses, ça a été notre quotidien pendant de longues semaines, quoi. Depuis le meurtre de Rémi Fraisse, on est ici. Donc il y a eu un moment juste avant, on était parfois une vingtaine ou une trentaine ici, quoi. Donc là maintenant actuellement on est quand même assez nombreux. Je pourrais pas dire exactement le nombre qu'on est parce que c'est toujours fluctuant. Il y a des gens qui viennent des fois filer des coups de main de 3 jours, d'autres qui viennent 15 jours et qui s'en vont. Enfin, en tout cas, le nombre d'occupants est toujours fluctuant. Mais en tout cas, on est assez nombreux pour pouvoir commencer à s'organiser, mettre, mettre des groupes de travail, commissions en place qui sont assez efficaces, que ce soit au niveau légal, au niveau médical, au niveau média, au niveau logistique et autres. C'est plutôt... une société qui est en train de se mettre en place avec son propre mode de vie, ses alternatives, une espèce de laboratoire d'alternatives au système en place. Et voilà, c'est particulièrement constructif. J'habite ici, je compte bien y rester.